10h-11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, Speak Uni, ça veut dire spiritualité, culture et harmonie. Bonjour, bienvenue, bon week-end, émission en direct. Aujourd'hui, Yacine est en vadrouille, c'est l'imam Abdelali Mamoun qui a la lourde tâche de le remplacer. J'espère que vous serez à la hauteur, imam Abdelali.
Inch'Allah, bon. C'est pas ma spécialité, mais on va essayer de faire.
Non, je sais que vous allez y arriver. Tiens, remontez un petit peu votre micro.
Oui, d'accord.
Non, enfin, voilà, comme ça on
vous entend. Non, moi je vais descendre un petit peu.
Bon, imam Abdelali, c'est demain la journée internationale des droits des femmes, International Women's Day. C'est mieux de le dire en anglais parce qu'on entend le S. On va en parler donc aujourd'hui avec nos invités. Une d'entre elles disait tout à l'heure « Tout change, y compris la place de la femme en religion ». C'est ce qu'on verra. C'est Révital Berger-Schloman qui disait ça tout à l'heure. Bonjour Révital.
Shalom, Boker Tov, bonjour.
Voilà, et vous enseignez le Talmud et la Torah, c'est ça ?
Je suis la directrice de Talmud Torah, co-directrice de mouvement judaïsme en mouvement, JEM. Nouvelle, on peut dire, c'est la nouvelle de judaïsme en France et la fusion entre la communauté de Copernic et la communauté de MJLF. Et oui, ma pédagogie, c'est ma vie.
C'est bien ça, vous êtes la reine de la punchline. Hein, ma pédagogie, c'est ma vie. Claire Pouli est avec nous, c'est une petite nouvelle. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et réalisatrice de podcast, c'est pour ça que j'ai appelé Madame Podcast tout à l'heure, auteure de documentaires radio depuis plus de 15 ans, notamment à France Culture, voilà. Dans la grande maison. Une des voix de la maison est avec nous, c'est Karima Chadibaou. Bonjour Karima.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Coach
bonjour
familial mesdames. Et parental, et vous avez cofondé une école de naturopathie qui s'appelle l'ENAT à
absolument.
Saint-Ouen. Et puis le retour de Catherine Escrive qui est là, bonjour.
Bonjour voilà, à tous.
Voilà, journaliste multimédia et réalisatrice de documentaires. Imam Abdelali, quels sont les mots que vous avez appris en préparant cette émission ?
Ouais, c'est vrai que je ne les connaissais pas avant de les découvrir, franchement. Donc ça a été très instructif pour moi, pour effectivement me donner un peu plus d'humilité vis-à-vis de la junte féminine. Alors le premier mot, ça c'est plutôt quelque chose qui a rapport avec nous. Parce que je connaissais misogynie, mais est-ce que vous connaissez le mot misandrie ?
Alors tiens, qui ?
Misandrie.
Oui, Catherine. Certainement le fait de rejeter les hommes ou de ne pas les apprécier suffisamment.
Oui, c'est tout simplement le.
Ouais, non.
Oui, alors j'écoute avec attention.
Oui, je connais ce mot. C'est le contraire de misogynie, absolument. Oui.
Alors, donc c'est un mot grec qui veut dire misin. Donc la première partie misogynie, c'est misin. M-I-S. Attendez, excusez-moi, parce que là, quand je reçois des messages en même temps.
C'est-à-dire que vous ne faites pas grec couramment, Imam Abdelali. C'est ça que ça veut dire.
Et justement, là, quand je reçois des.
Mais mettez-vous en mode avion, ça sera plus pratique.
Ouais, je crois que c'est ce que je vais faire, je vais finir, parce que je reçois en même temps des appels qui viennent me.
Bon, alors, en tout cas,
c'est. Non, mais c'est bon, j'y suis là.
D'accord.
Alors, donc, je disais misin, qui signifie haïr, et andros, qui signifie les hommes, donc signifie littéralement ne pas aimer les hommes. Le contraire donc de misogynie. Voilà pour le premier mot.
Deuxième mot. Alors ça se gâte. Hein.
Là ça se gâte. Alors on parle de mansplaining. Le mansplaining ou le m'explication. Le mec.
Vous avez lu Marie-Claire ?
Le mec. Explication. Ouais. Qui sait ce que veut dire ce mot-là ? Le m'explication. Le mansplaining en anglais. Mansplaining en anglais.
C'est-à-dire explique peut-être, alors je vais m'hasarder allant sur l'étymologie des mots, c'est l'explication vue par les hommes en fait, expliquer les choses par l'esprit de l'homme, l'homme avec un petit H.
Plus que ça. Non, mais c'est surtout sur la manière.
Oui, d'accord.
Alors vas-y.
C'est différent du.
Donc,
du
un homme féminin. Qui explique.
Voilà, à sa manière à lui, c'est-à-dire dans sa vision et ses représentations.
Pas tout à fait, c'est sur la forme.
Oh là là. Très pointu aujourd'hui.
Pointu, ouais.
Ça commence fort cette émission. Vous avez vu ça ?
Alors, Imam Abdelali,
c'est tout simplement un homme qui explique quelque chose à une femme de manière condescendante. On parle ainsi de mansplaining. Ce néologisme anglais est formé à partir des mots man, homme, et explaining, explication, et donc qui consiste à voilà une sorte de domination de l'homme par le fait de vouloir expliquer aux femmes. En se faisant passer pour quelqu'un de supérieur, quoi. Voilà. Que vous comprenez rien et c'est nous les hommes qui comprenons. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire.
C'est un petit peu.
Voilà.
Imam Abdelali, si vous, j'allais le dire.
Attends, après, je dis,
Carina, commence pas tout de suite. J'allais le dire. En fait, on est l'illustration parfaite
tête, là. Alors, Révita.
Non, attendez, c'est demain, c'est pas aujourd'hui la journée mondiale de la femme. Aujourd'hui, c'est encore nous les maîtres du jeu.
C'est une préparation.
Oh là 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 là. C'est en fait un petit peu comme, comme nous, les adultes, parlent souvent avec les enfants.
C'est vrai.
Voilà. Voilà, c'est ça. C'est un peu prendre la femme pour un être inférieur et être un petit peu condescendant comme étant le supérieur qui vient lui expliquer comment, comment on doit vivre ou autre chose.
Alors, est-ce que vous avez un troisième mot?
Alors, un autre mot. On a le bropropriating. Le bropropriating.
Ah. Est-ce qu'on pourrait avoir des mots qu'on puisse prononcer?
Bropro.
Là, c'est
quand même la
vache. Et à votre avis, pourquoi on dit la vache et pas le bœuf?
Ah. La fraternité.
Quand on veut dire la vache, on dit pas le bœuf.
Non.
Peut-être que c'est la fraternité. Imam, c'est la fraternité entre les hommes, l'amitié entre les hommes.
Non, c'est encore là une forme de misogynie, hein, c'est encore une forme d'atteinte aux droits de la femme et à l'honneur et à la dignité des femmes, parce qu'on parle de bropropriating quand un homme s'approprie l'idée ou les idées d'une femme.
Ah oui,
ça arrive très souvent.
Oui,
voilà.
C'est une, en fait, s'approprie. Tous les mots là que vous nous donnez, c'est ce qu'on vit au quotidien. Hein.
Voilà, une prise de conscience de l'appropriation du travail et des accomplissements des femmes au cours de l'histoire est en cours. Elle concerne l'histoire politique, mais aussi et surtout l'histoire des sciences, puisque beaucoup de connaissances de découvertes scientifiques qui ont été faites par des femmes ont été récupérées par des hommes. Et donc ce travail scientifique et historique consiste à réapproprier aux femmes ce qui a été découvert par elles et non pas par des hommes qui sont venus derrière le récupérer.
Encore un dernier ? Ça signifierait qu'il y aurait une forme de passivité des femmes à cet égard et qu'il faudrait que ce soit les femmes qui prennent la parole pour affirmer qu'elles sont... elles sont à l'origine de ces idées. Ça voudrait dire que les femmes...
Oui, mais ces femmes-là,
devaient...
c'est souvent des choses qui sont historiques et les personnes sont déjà mortes depuis longtemps. Et le travail, c'est de redécouvrir par un travail de recherche qu'il y a derrière ces hommes qui ont censé avoir découvert une femme.
Bon, on verra d'autres mots tout à l'heure, Imam Abdelali. Tout change, y compris la place de la femme en religion. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Révital. Finalement, est-ce que les religions sont contraires à l'émancipation des femmes? Qui veut commencer? Catherine.
Ouh là là, alors ça, contraire, moi je pense pas. Je pense que les religions, elles vivent avec leur temps et que bien souvent, ce sont des institutions qui évoluent, en tout cas, je parle pour l'Église catholique, très lentement, qui a besoin de temps pour faire évoluer ses structures, mais forcément les évolutions de la société, elles ne laissent pas indifférentes, je pense, les décideurs dans l'institution de l'Église, par exemple. Mais il y a souvent, je pense, peut-être pas conflit, mais en tout cas une grande frontière entre ce qui se fait dans la société et ce qui est pratiqué dans les institutions religieuses.
Ouais. Révital.
Je trouve, oui, qu'il y a une différence, mais il y a une différence qui concerne aussi la société. Dans la société anglophone, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'ouverture. Et si je regarde l'évolution dans le monde juif, il est plutôt dans le monde progressiste juif. Et si je fais la comparaison entre le judaïsme orthodoxe et, voilà, si on regarde si c'est la communauté catholique ou la communauté musulmane, il y a un changement, mais beaucoup plus douce et d'une manière moins radicale qu'on dans le monde progressiste et le monde anglophone. Aux États-Unis, la place de la femme musulmane, elle est en différents lieux. Si on parle de femmes qui sont les leaders dans la politique, y compris dans le... Il n'y a pas encore le leader spirituel. On a envie de l'avoir, mais ça n'existe pas encore. Et en judaïsme, oui. Aussi dans le judaïsme orthodoxe aux États-Unis, vous avez aujourd'hui les femmes qui sont ordonnées comme de rabbins.
Ouais. Même chez les orthodoxes.
Chez les orthodoxes modernes, qui sont considérés quand même orthodoxes.
Orthodoxes modernes. Karima Chalibaou.
Alors, en ce qui concerne la religion musulmane, on a le leadership spirituel des femmes. Seulement, il ne s'exprime pas de la même manière, en fait, que l'homme. Et si on veut vraiment sortir du modèle, en fait, masculin, avec tous les mots qu'a donné l'imam tout à l'heure, et pour être vraiment dans cette émancipation, la religion musulmane, la première chose qu'a fait le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, c'est de libérer la femme. libérer la femme, c'est-à-dire de lui donner une stature spirituelle, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle peut aspirer au haut degré de la foi, elle peut aspirer à avoir cette proximité avec Dieu. Seulement, après, comme l'a dit Catherine, c'est que dans la société et dans le comment est-ce qu'on le vit, comment on concrétise ça et comment on le pratique, il y a, c'est pas une frontière, c'est un fossé.
Donc, c'est pas la religion qui est un frein. C'est la société.
C'est la société parce qu'il va falloir, si vous me permettez, on va être confronté en fait aux mentalités, à la mentalité de l'homme avec un petit H. Quand je dis homme petit H, c'est-à-dire l'homme masculin, d'accord. On est confronté à sa mentalité, à ce rapport de domination, ce rapport de pouvoir. Et le leadership des femmes.
Mais qui n'est pas hérité des religions.
Mais qui n'est pas hérité des religions. C'est ça, en tout cas, ça, c'est mon point de vue.
C'est votre lecture, ouais, d'accord.
Absolument.
Claire, on ne vous a pas entendu.
Oui, il y a une grande imbrication entre la religion et la société. Donc effectivement, les religions sont prises dans ces sociétés-là. Et on voit par exemple, concernant la Bible ou les évangiles, ça a été écrit par des hommes. C'est une vision d'homme, parce que les hommes étaient écoutés à cette époque et les femmes n'avaient pas forcément dans la société le pouvoir de le faire. Mais en revanche, parfois, enfin je parle pour la religion chrétienne et catholique, parfois la religion a au contraire été un moteur d'émancipation. Par exemple, les femmes abbesses au Moyen-Âge avaient un pouvoir hallucinant pour l'époque.
Qu'est-ce que vous appelez les femmes
abbesses ? Alors, qui dirigeaient des abbayes, oui. Et qui étaient des femmes religieuses qui avaient donc toute une communauté de femmes religieuses sous leurs ordres, entre guillemets, et qui avaient un vrai pouvoir, on les écoutait, qui avaient toute cette communauté qu'elles dirigeaient, qui avaient le pouvoir de parler directement au pape, alors que, voilà. Et donc ces femmes-là, il y a eu des grandes femmes scientifiques aussi, du coup, dans ces abbayes. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît pas vraiment, mais qui, au contraire, montrent que la religion a permis à certaines femmes de s'émanciper.
Mais alors, d'où l'idée que les religions préfèrent les hommes aux femmes vient-elle ?
Alors, c'est vrai que c'est une idée qu'on a parce que...
Féministes, ils se sont emparés de cette idée, finalement, oui. Que les religions étaient largement favorables aux hommes.
Peut-être que les hommes ont utilisé les religions aussi, parfois, pour avoir une emprise sur les femmes. Oui. Donc, il y a eu peut-être cette façon, comme tous les pouvoirs, on peut l'utiliser pour avoir une emprise sur les autres, peut-être.
Évita, je vois que vous voulez réagir. Oui.
Je vais ajouter que ce n'est pas seulement une question de tradition. C'est exactement ça, c'est une question de pouvoir. On regarde dans la Bible, évidemment, de personnages bibliques qui ont beaucoup de vertus, beaucoup de qualités et qui ont changé l'histoire à la fin. Mais c'est l'interprétation. Et l'interprétation, souvent... Depuis les périodes bibliques, les périodes, on peut dire, dans le monde juif, les périodes talmudiques et plus tard, c'était les hommes qui ont écrit le livre. Ils ont donné leur interprétation et en fait, la voix féminine, aujourd'hui, bien évidemment beaucoup plus, parce que les femmes, ils sont déjà permises d'étudier. Et le moment que les femmes sont permises d'étudier, ils ont leur pouvoir dans, aussi en regard de la société. Et vous avez aujourd'hui beaucoup de femmes qui leur voix est bien bien écoutée. Et je pense qu'on marche peut-être pas rapidement que nous voulons pour la dirigeance spirituelle dans toutes les instituts de toutes les religions, mais on marche vers l'avenir. Je pense beaucoup plus.
Vous êtes optimiste avec plus de représentation.
Moi, je suis très très optimiste. Oui.
Karima, oui.
Dans cette lecture aussi, quand on revient sur le ce qui est en commun entre la religion hébraïque, la religion musulmane, la religion catholique, dans le texte, quand on voit même au cœur même de la création d'Adam, on parle tout de suite de la création d'Adam et ensuite il y a Ève qui arrive. Donc déjà dans l'esprit, dans l'interprétation, comme on interprète en fait ce moment, la Genèse, on voit que il y a la supériorité de l'homme et puis une femme qui est là, qui est sa compagne et qui va être avec lui pour.
Bon, donc vous l'interprétez comment ça ?
C'est de là que vient cette
interprétation de.
Mais c'est de là que vient l'interprétation que finalement la religion s'adresse aux hommes. Mais non. En fait, il y a...
Donc c'est une mauvaise interprétation.
De mon point de vue, c'est une mauvaise interprétation.
Si je peux me permettre, je suis totalement d'accord avec vous. On a la chance avec Claire de participer à un séminaire qui s'appelle « Femmes et religions en Méditerranée », où interviennent des femmes de toutes religions et des hommes au Collège des Bernardins. Et ce que vous dites rejoint exactement le travail qui est fait dans ce séminaire, à savoir les premières traductions et les manières dont les textes ont été traduits et qui sont eux-mêmes signes de domination masculine et de mauvaise tradition. On a eu la chance d'avoir cette femme imam qui, je crois, est venue dans vos studios il n'y a pas très longtemps.
Karima Baloul. Karima Baloul.
Que certaines traductions devaient être, selon son point de vue, revues. Et de même que ça peut également être le cas chez les catholiques. Voilà.
Je vais ajouter qu'il y a deuxième interprétation de ce texte qui c'est l'interprétation de texte écrit. C'est pas seulement par oral. C'est Dieu il a créé à son visage mâle et femelle. Ça veut dire que Dieu crée un visage déjà qui a ces deux côtés, masculin et féminin. Et c'est très très important parce que si on insiste de commencer depuis le début, et je suis tout à fait d'accord, il faut déjà là. Voilà, trouver un lien.
Les religions ne sont pas misogynes, vous êtes unanime.
Oui, absolument.
C'est l'interprétation qui est faite par les hommes.
Elles ont besoin de temps, les religions. On est dans une société où parfois on ne prend pas le temps de la réflexion. Regardez comment ça se passe sur les réseaux sociaux, un manque de nuances évident. Mais les religions, elles ont aussi besoin de temps pour réfléchir et pour être dans la nuance, me semble, non ?
Après, ça dépend. Oui. La société va tellement vite qu'à un moment donné, si les religions ne se mettent pas au rythme de la société, elles seront toujours en retard. Elles sont toujours un train de retard sur les débats de société.
Mais elles ont des décisions tellement importantes à prendre aussi, ces religions, pour les hommes et les femmes, que je trouve qu'elles ont moins droit à l'erreur, finalement, que d'autres institutions. Enfin, il me semble, en tout cas.
Bien. Alors, on va voir tout à l'heure avec vous le rôle futur Révital, j'ai vu vous étiez optimiste, des femmes dans ces religions, les places qu'elles vont occuper, est-ce qu'elles seront sur les devants de la scène? L'émission est en direct, si vous voulez réagir, vous pouvez nous appeler au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Spicuni revient dans un instant. 10h-11h, Spicuni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, et demain, c'est la journée internationale des droits des femmes. On fait une émission qui vous est consacrée, mesdames, aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez la thématique de cette année? Parce que tous les ans, il y a une thématique. Personne ne connaît la thématique.
Pas du tout.
Je suis de la génération égalité pour les droits des femmes et un futur égalitaire. Voilà, ça c'est la thématique de cette année. Aujourd'hui, dans le rôle de la muse, alors on a l'imam Abdelali Mamoun. Vous êtes notre muse aujourd'hui.
Alors,
pourquoi vous faites la moue?
Je voudrais rappeler une citation d'une très grande un personnage très important au sein de la composante musulmane, la communauté musulmane dans le monde, qui est la mère des croyants, qui s'appelait Aïcha. Aïcha radiallahu anha, un jour, elle lisait le Coran. Et elle lisait les versets qui parlaient de récompenses que Dieu accordera aux hommes. Et il dit que les hommes auront dans le paradis des vergers, hada'iqa wa ahnaba wa kawa'iba atraba. Et elle tombe sur ce mot-là. Et des femmes avec des seins fermes. Des femmes avec des seins kawa'ib. El kawa'ib, ça veut dire celles qui ont des seins, voilà, bien jolis, etc. Wa kawa'iba atraba. Et donc là, elle s'énerve. Elle referme son feuillet dans lequel elle est en train de lire ce verset. Je rappelle que sourate An-Naba, dans sourate Amma Yatasaalun, c'est un des derniers versets. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Elle referme son feuillet, elle a dit: oh mon Dieu, qu'as-tu à nous enjoliver le paradis pour nous attirer vers toi? Nous ne voulons que ta face. Qu'as-tu à nous parler des biens du paradis, des choses, des merveilles du paradis? Ce que nous voulons, c'est toi. Et cette phrase-là, elle est très prise par les soufis, par le mouvement soufi, pour donner une dimension très sentimentale du lien que doit avoir l'être humain avec son créateur. Et c'est effectivement, moi, ce qui manque dans ce rapport que l'homme a avec Dieu. C'est que quand on parle de crainte de Dieu, on parle de peur. Quand on parle de Dieu, on parle de récompenses et des délices du paradis, de choses matérielles, de choses plutôt qui sont en rapport avec le droit, la raison, mais très peu avec le cœur. Et c'est justement, à mon avis, pour rendre cette dimension du lien entre l'homme et Dieu qui est l'amour, il faut redonner l'islam aux femmes. Voilà ce que je dirais, moi, pour confirmer ce qu'a dit Aïcha. Elle a dit Ya Rabbi, malaka tukhashkhishu lana bi khashakhish al-jinan wal huri wal wuldan. Qu'as-tu à nous parler des tocs, des choses des, comme du toc du paradis? Wallahi ma nuridu illa wajhak. Nous ne voulons que ta face.
Bien, voilà. Ça introduit la nouvelle thématique, c'est la place des femmes et la visibilité des femmes dans les religions. Pour l'instant, seul le protestantisme autorise l'ordination des femmes pasteurs. Des femmes rabbins existent et non pas rabbines, il y en a quelques-unes, on l'a vu tout à l'heure. Des femmes imams existent aussi aujourd'hui. Et le pape François a créé une commission d'études il y a quelques années, hein, Catherine.
Philippe, c'est pas vrai, ça n'existe pas les femmes imams. Il y en a pas. Dans des mosquées, un imam, c'est-à-dire qui exerce des fonctions
imam,
qui s'autoproclame, oui.
Mais qui, peut-être que je n'ai pas dit autoproclamé, mais aujourd'hui, il y a au moins trois femmes
France. Est-ce qu'elles exercent
en
des fonctions
France. Oui, elles ont commencé à exercer. Elles ont commencé.
Est-ce qu'elles ont une mosquée?
Elles ont commencé à exercer, oui.
Les cinq prières quotidiennes.
Cette semaine, je crois qu'elle a commencé.
Elle a fait une Jumu'ah.
Non, mais un imam, c'est quelqu'un qui assure les cinq prières dans une mosquée.
Alors, est-ce qu'on peut développer la thématique? Vas-y. Soyez notre muse. Restez notre muse pour l'instant. Bien. Donc, ça veut dire que cette question de la visibilité sur les devants de la scène, elle est centrale ou pas, Révitale?
Je trouve que déjà, oui, la question est là, évidemment. Déjà, on regarde parmi nous, on a parlé beaucoup de cette question. Et pour la femme juive, déjà, pour corriger un petit peu et de mettre, voilà, de manière plus claire, Rabin était considérée dans la traduction française comme la femme de rabbin. Qu'elle a beaucoup d'importance et beaucoup de rôle, bien sûr, vers la communauté. Le femme rabbin, voilà, une terminologie utilisée par le rabbin Delphine Orvillère. Il y a plusieurs années, il y avait seulement deux femmes rabbins ici en France. Aujourd'hui, il y a déjà quatre et nous allons doubler cette chiffre en quatre ans. Je pense que le même mouvement commence dans le monde musulman déjà par la présence de trois femmes aujourd'hui qui sont, voilà, déjà, qui ont le pouvoir de commencer à diriger les prières. Peut-être pas dans la formule idéale d'un mosque, mais changer une tradition, c'est encore très très compliqué. Dans le monde catholique, c'est une question très intéressante. Est-ce qu'il y a la volonté?
Attendez,
je fais
un checker. Karima, je vois que vous tortillez sur votre chaise.
Oui, je tortille sur ma chaise parce que quand on. Alors, en islam, d'accord, dans la religion musulmane, il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir ordonner tu vas être imam ou tu vas être ceci ou tu vas être cela. D'accord? Ça, on ne peut pas comparer ces. L'organisation, elle est complètement différente. Elle est plutôt circulaire. D'accord? Maintenant, quand on dit.
Quand vous dites circulaire, qu'est-ce que vous entendez par là?
Dans le sens où chacun, en fait, chaque personne, l'imam parlait de femme imam, qu'est-ce qui va dire que cette femme est imam? Qu'est-ce qui va dire que cet homme est imam?
Qui va lui donner l'autorité?
Qui va lui donner, voilà, exactement. Ouais, bon. En islam, quand on dit circulaire, c'est-à-dire, c'est par rapport aussi à, dans sa connaissance de la religion, d'accord? Dans son, alors, on peut pas mesurer son degré de foi, parce que ça, on peut pas rentrer dans les cœurs, ça seul Dieu le sait, d'accord? Mais je veux simplement dire qu'on peut pas. Et ça, c'est dans la démarche, si on veut vraiment sortir des habitudes, dans la manière de penser, dans la, on peut pas, les femmes sont différentes des hommes. On a un verset du Coran qui dit le masculin est différent du féminin. On peut pas attendre des femmes exactement. On peut pas attendre des femmes. Et ça, c'est Dieu qui dit ça, cette parole. Il l'a dit à qui? Dieu le dit à la femme de Imran, la mère. D'accord, la mère de Marie, qui sera la mère de Jésus, paix à son âme. Et donc il lui dit, le masculin est différent du féminin. Donc on peut pas réfléchir, on peut pas dire, il y a des hommes. En tout cas, c'est mon point de vue. Je vais peut-être offusquer quelques personnes ici, mais on peut pas dire parce qu'il y a des hommes imams, des hommes rabbins, des hommes curés, prêtres, pasteurs, qu'il faut avoir des femmes. Rabbin, des femmes. Vous comprenez ce que je veux dire?
L'égalité, elle n'est pas là.
C'est pas ça, l'égalité. Pour moi, l'égalité, c'est-à-dire qu'on reste dans un paradigme, dans le schéma que ce que fait l'homme, on fait la même chose. Non.
Alors,
nous sommes, juste pour terminer ma manière,
sinon, il faudrait que nous, si on tombe enceinte et qu'on accouche.
Parce qu'on est différents. Ça veut dire que les femmes, leur autorité, quand je dis autorité avec un grand A, leur guidance, comment est-ce qu'elles vont exprimer, en fait, leur manière d'appartenir à ce monde, de faire changer les choses, la société, c'est pas à la manière des hommes. Moi, je suis convaincue, ce n'est pas à la manière
alors,
des
Catherine,
hommes.
Alors, Catherine, je vous ai vu réagir et après Révital.
Je vous rejoindrai parce que l'Église parle aussi de cette spécificité typiquement féminine et c'est en vertu aussi de cette spécificité que, pour l'instant, la prêtrise ne leur est pas ouverte, mais parfois c'est très enfermant aussi pour des femmes de leur renvoyer sans expliquer vraiment clairement. Alors moi, ce que je trouve très intéressant, je ne sais pas si je peux en parler là, Philippe, c'est cette ouverture au diaconat. Parce qu'il y a la prêtrise qui est demandée par certaines femmes, mais il y a aussi cette réflexion sur le diaconat, c'est différent. Ça correspond...
C'est quoi le diaconat ?
Alors, ça vient de diacre, je crois.
Voilà, diacre, qui du grec veut dire, en grec veut dire serviteur. En fait, quand on est diacre, on sert la communauté, les plus pauvres, la communauté, mais on ne peut pas administrer certains sacrements, on ne peut pas donner l'Eucharistie.
C'est le grade le plus bas du clergé chrétien, c'est ça ?
Pas bas, mais c'est
le
un
plus,
service différent.
C'est pas bas parce que c'est un service, c'est non, une mission de service et non pas de pouvoir. En fait, on réfléchit beaucoup en termes de pouvoir. En réalité, par exemple, chez les catholiques, le prêtre, il est au service, il n'y a pas le pouvoir. Et en fait, c'est quelque chose... Du coup, j'ai réfléchi à ça, parce que je me suis dit, pourquoi il n'y a pas de femme prêtre, finalement, on se demande. Il y a à la fois la tradition, le fait que le Christ a demandé...
Il y a des femmes prêtres, mais il y a des femmes qui sont... Il y a des sœurs, en fait, par exemple.
Il y a des sœurs, j'en parlais, des mères abbesses. Il y a des femmes qui ont des très grandes responsabilités dans l'Église. Il faut savoir, par exemple, que la personne qui a le rôle de... En gros, ministre des Affaires étrangères du pape, c'est-à-dire vraiment, c'est la personne qui parle à l'ONU au nom du pape, donc quand même une énorme responsabilité, c'est une femme. C'est une Française qui doit avoir 45 ans à tout casser. Moi, je l'ai rencontrée. J'étais absolument étonnée. Alors, je me dis peut-être pas... Je me souviens plus exactement de son nom. Mais c'est une femme que j'ai rencontrée et qui travaille avec un cardinal. Voilà. Donc, les femmes ont des responsabilités. Elles n'ont pas ce rôle de prêtre parce que le prêtre, chez nous... donne un sacrement, c'est-à-dire que à travers lui, il parle en la personne du Christ.
C'est le sacerdoce.
Pour nous, le Christ, c'est Dieu incarné.
C'est le sacerdoce.
Voilà, donc c'est le sacerdoce, donc c'est quelque chose de très spécifique. Je pense qu'on peut pas comparer avec un rabbin.
À cause du sacrement,
À cause des sacrements.
D'accord, okay.
Voilà.
Alors, Révital, je vous vois, vous aussi, là.
On l'a dit avant que... Moi, j'ai dit que j'ai la chance de... Peut-être que toutes mes perceptions religieuses, ils ont naît dans le monde progressiste. Et ça veut dire que je vois différents mouvements de femmes, et le rôle aussi spirituel dans la communauté libérale, dans le monde, pas seulement en France, et que je pense qu'encore, il y a le tendance. S'il y a la volonté, si une femme a envie de diriger sa communauté, le titre, le vocabulaire, si ça s'appelle un imam ou un autre rôle, c'est moins l'importance. Le pouvoir est important. Et le pouvoir, ça veut dire qu'elle permette de prendre les décisions pour sa communauté, pour le peuple de sa communauté. Et c'est là-bas que je vois et que je trouve qu'en France, nous ne sommes pas encore en ligne droite comme le monde anglo-saxon. Ouais. Et qu'il y a encore des choses que nous pouvons faire. Parce que si la volonté existe, on ne peut pas limiter cette volonté.
Et si le mot est important, parce que si une femme se revendique comme imam, ça va bloquer parce qu'elle se revendique en tant qu'imam.
Oui. Ouais.
Moi, je crois Catherine, que chez les catholiques, il y a une piste très intéressante. Actuellement, c'est la piste du diaconat féminin. D'ailleurs, le pape François a ouvert une réflexion. Il a demandé à des congrégations religieuses féminines de réfléchir sur ce sujet, des femmes diacres. Il les a réunies. Elles étaient 850 responsables de congrégations à venir le rencontrer il y a quelques mois pour évoquer ça. C'est encore en discussion. Mais moi, personnellement, en tant que femme catholique, j'ai quand même l'impression qu'il y a une réflexion qui est menée au sein de l'Église. Il y a des femmes comme Anne-Marie Pelletier qui est bibliste, Christine Pedotti qui avait fondé le comité de la jupe, qui a écrit un livre qui s'appelle Jésus, l'homme qui aimait les femmes. C'est des femmes comme ça quand même qui poussent la réflexion, qui réclament pas forcément que les femmes deviennent prêtres, mais qu'elles aient peut-être plus de responsabilités. Et Révital parlait de la prise de parole. C'est très important en tant que femme catholique qu'on puisse aussi entendre d'autres femmes catholiques prendre la parole dans l'espace public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la hiérarchie de l'Église, elle est quand même masculine. Donc si on pouvait plus les entendre, si la femme dont nous parlait Claire à l'instant pouvait être plus entendue, on a besoin aussi, je crois, de modèles inspirants.
Oui, je pense que quand même les femmes, il faut quand même être honnête, les femmes dans l'Église catholique et peut-être dans les autres religions ont quand même un peu l'impression qu'on ne les écoute pas beaucoup et qu'elles n'ont pas beaucoup d'autorité. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on soit honnête, même si...
vous êtes tous d'accord
Et peut-être qu'on est aussi dans des cercles qui réfléchissent à ça et qui sont particulièrement offensives, entre guillemets. Mais c'est vrai que les femmes, parfois, souffrent un petit peu d'être reléguées, entre guillemets, à certaines tâches qu'elles jugent un peu subalternes, etc. Après, c'est un vrai sujet. Mais je pense que les religions sont en train de prendre à bras le corps ce sujet.
Alors,
je garde la positivité parce que c'est mon langage pédagogique. Et si je pense qu'on adapte vers cette terminologie plus positive, vers la volonté de plusieurs femmes dans toutes les religions de s'exprimer leurs pensées, on va bouger. On va progresser. Et c'est qu'on voit aujourd'hui dans le monde juif, ici en France, la première école rabbinique progressiste encore était ouverte il y a 2 semaines. La communauté de Sigiel et la communauté de Keilat Gesher, le premier rabbin femme en France, le rabbin Pauline Beb, a ouvert, voilà, pas seulement le programme à Sciences Po et Mouna, mais aussi une école rabbinique. C'est révolutionnaire. On ne peut pas imaginer une école rabbinique ouverte par une femme en France il y a 10 ans.
Oui, il y a eu comme c'est comme le synode sur l'Amazonie, même chose a été ouverte, des femmes ont participé à ce synode, se sont exprimées. Malheureusement, elles n'ont pas tellement eu le droit de faire partie des conclusions, voilà, mais ça évolue.
Bon, tout à l'heure, il y aura le grand quiz des religions, on verra laquelle de vous sera vainqueur.
C'est super balèze.
On verra. C'est l'imam qui a fait les questions. Même moi, j'ai pas compris l'énoncé.
D'accord. Bon.
On verra si le féminisme.
Moi, je déclare forfait tout de suite.
Ça s'appelle, le truc condescendant. Là, j'ai oublié le nom. Là.
Oui.
Bon, on verra si le féminisme et la religion, ça fait bon ménage également. Je vois que vous voulez intervenir au standard. Vous pourrez peut-être aussi tout à l'heure au 01 53 48 3000.
Speak Uni revient dans un instant. 10h-11h, Speak Uni, l'émission interreligieuse avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, avec des femmes sur ce plateau aujourd'hui. Révital Berger, Schloman est avec nous. Vous avez créé Talmud Torah. Avec nous également Claire Pouli, qui est journaliste et réalisatrice de podcasts, auteur de documentaires sur France Culture depuis plusieurs années. Catherine Escrive est journaliste multimédia également.
Elle est réalise... également venue de France Culture.
Vous êtes, voilà. Qu'est-ce que c'est cultureux aujourd'hui? On salue Raleb Bencher, qui anime les émissions d'ailleurs religieuses sur France Culture. Et puis Karima Chadibaou, qui est avec nous.
Ça s'appelle, je crois.
Oui, exactement. Coach familial, parental, et vous avez cofondé une école de naturopathie qui s'appelle Nénat, et c'est à Saint-Ouen. Vous êtes une des voix de Beurre FM. Alors, vous êtes nombreux à vouloir intervenir au 01 53 48 3000. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut se revendiquer comme à la fois féministe et pratiquante? Est-ce qu'on peut, ça? Est-ce que finalement, la religion et le féminisme font bon ménage? Tiens, Catherine.
C'est souvent assez effrayant pour nos interlocuteurs, parce que le féminisme a plusieurs sens, c'est un peu le sens que chacune lui donne. Si féminisme, ça veut dire...
Fémène.
Voilà, c'est un peu...
Alors voilà, tout de suite.
Là, la pratique, c'est chaud.
Le philologue.
Si c'est réfléchir sur ma légitimité de femme au sein d'une institution et d'une religion, à m'exprimer, à étudier, à m'affirmer, à transmettre, alors... Peut-être, je suis féministe, mais je crois qu'en fait, le féminisme, quand il est forcément dans le conflit, ça peut effrayer. On peut être dans un féminisme de discussion pour faire évoluer les choses, pour penser à l'avenir.
Oui, voilà. un féminisme de collaboration, de coopération, de co-création, et pas contre les hommes. Moi, je dis pas... Le féminisme est... Alors, dans ma lecture à moi...
et islam vont bien ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est défendre. On parlait, demain c'est la journée des droits des femmes, de toutes les femmes, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur, quelle que soit leur appartenance. Donc c'est moi je me bats tous les jours, mais vraiment tous les jours, au sein des centres sociaux, avec les femmes, pour les femmes, pour qu'elles puissent renouer avec elles-mêmes, renouer avec leur essence féminine, parce que notre monde manque beaucoup de ça. Si c'est ça, être féministe, bon, ben, c'est ma manière à moi de l'être. Défendre les femmes, pour moi, c'est ça. Plus sur un chantier, plus pas égalitaire, parce que je trouve que le mot est galvaudé, mais plutôt d'équité. Parce que nous sommes différents. Par essence, nous sommes différents. Physiquement, nous sommes différents. Donc, on ne peut pas aspirer aux mêmes choses.
Et cette idée de la différence est peu audible dans notre société où il y a aussi ces discussions autour des questions de genre. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de dire que nous sommes différents ? Moi, je pense que c'est une question.
Moi, je le dis parce que la biologie le dit. La biologie le dit, la science le dit. Je ne vois pas pourquoi. La philosophie va dire « Ah non, est-ce on est pareil. »
Est-ce que vous le dites également, Révital ?
Ouais, je prends peut-être une direction un peu différente. Je pense que la spiritualité égalitaire. Et ça, évidemment, physiquement, nous sommes différents. Et évidemment aussi, les traditions, depuis la période biblique jusqu'à aujourd'hui, il y avait beaucoup de changements. Mais quand je regarde la place de matriarche, quand je regarde la place de Sarah, première féministe de la Bible, bon, elle n'était pas toujours en faveur de son concubin, de Agar, mais elle a changé l'histoire. Je regarde aussi le dame comme Ruth, voilà. Je regarde celui qui en va parler.
C'était qui beaucoup. Ruth?
Ruth était Ruth Moabite, la première convertie, on peut dire officielle de période publique, qui suivit sa belle-mère. C'est pas toujours très populaire de suivre la belle-mère.
Non, en général, on la suit pas. On la suit.
Je voudrais terminer avec une dame en particulier qui s'appelle Esther. Esther, c'est la héroïne de l'histoire de la fête qu'on va célébrer la semaine prochaine.
Lundi prochain, je crois. Lundi, mardi prochain.
Fête de Pourim.
Cette jeune femme était demandée par son oncle Mordechai, Mordechai le juif, d'aller à la maison de Ahasuérus, grand roi avec beaucoup de pouvoir, pour lui marier et pour, en effet, changer la direction de relation avec le monde juif en période perse, quand il y avait beaucoup d'ouverture, et le pouvoir des femmes était un grand, grand défi de cette période-là, historiquement. Pas des femmes juives, hein, déjà la femme qui, perse.
C'est quelle période de l'histoire
Je ne rappelle pas le période, précisément, ouais. mais je pense que
c'est... On va demander à Cher Google.
Il faut, Google, immédiatement. Mais je pense que...
C'est Cher Google ou Rabbi Google, vous l'appelez comme vous voulez, ou Pop Google.
Je continue comme j'ai commencé, ouais. C'est que c'est une question d'interprétation. Parce que si... Il n'y avait pas la volonté d'Esther d'aller vers la maison d'Ahasuérus pour faire cette communication, d'avoir cette sensibilité, d'attendre pour la minute précise, pour le moment correct de partager son histoire personnelle avec le roi, peut-être que l'histoire n'a jamais changé.
Claire, le mot de la fin avant le quiz.
Non, je trouve que cette histoire de féminisme, c'est aussi une histoire d'écoute entre les deux sexes, de respect et de confiance. Et moi, je vois toujours la grande image pour nous, les catholiques, c'est Marie. Marie, c'est quand même une jeune fille, une jeune femme qui est tombée enceinte avant de se marier. Enfin, voilà, ça a quand même été quelqu'un qui s'est retrouvé en porte-à-faux total avec la société de son temps, avec son père, avec ses frères, avec son fiancé, etc. Et je me dis, voilà, cette femme a fait confiance à Dieu, puisqu'elle a porté le Fils de Dieu, et puis elle a fait confiance, et Joseph, son fiancé, lui a fait confiance, a fini par se marier avec elle. C'est quand même hallucinant, quand même, quand on y pense. Donc je me dis, ces histoires de féminisme, c'est aussi ça, c'est l'écoute et la confiance entre les sexes, et la collaboration, du coup.
Bien, c'est le grand quiz des religions. Mesdames, l'imam Abdelali va vous poser des questions. Si vous les avez compris, que vous avez la réponse, vous marquez le point. Alors, Imam Abdelali.
Alors, première
question. C'est quoi le principe là
Il y a 5 questions, donc c'est impair, forcément. D'accord. Il y a un gagnant. Une gagnante plutôt.
On y va.
Reconnue comme ayant été l'une des premières femmes gynécologues, 400 ans avant Jésus-Christ, Cette dame aurait courageusement pratiqué la médecine en Grèce à une époque où les femmes encourageaient la peine de mort pour cela. Finalement arrêtée pour ses activités, ses patientes prirent sa défense et lui donnèrent raison. Elle put ainsi continuer à exercer la gynécologie 400 ans avant Jésus-Christ.
Donc il faut trouver quelqu'un, c'est ça ?
Ah, voilà, c'est ça.
C'est un nom. Ouh là là. Mmh.
Ça commence par quoi ?
Oui, parce que là...
Ah.
Elle est très
Athéna.
Elle est grecque d'ailleurs.
Elle est grecque. Bah oui, c'est une grecque.
Pour Révital.
Athéna.
Elle s'appelle. Alors vous donnez tous votre langue à la chatte. Parce qu'aujourd'hui c'est au féminin.
Tout est fait. Non, c'est pas possible.
La langue au chat.
C'est pas possible. Alors
elle s'appelle Agnodis.
Pardon.
Agnodis. Agnodice. Agnodice.
On fera pas une conférence sur elle. Deuxième question, j'espère que c'est plus facile.
Alors là, c'est du côté plutôt chrétien. Fortement critiquée pour ses études de textes profanes, la célèbre dramaturge et religieuse mexicaine a défendu les droits des femmes à l'éducation en l'an 1691 de façon mémorable en déclarant « Il est tout à fait possible de philosopher en préparant le repas ». dit-elle. Devenue une icône nationale, elle apparaît aujourd'hui sur les billets de banque mexicains.
Catherine. C'est une sœur, une religieuse ?
Oui, c'est une sœur.
Ah, c'est une sœur.
C'est une sœur.
Ouais. Nachos ?
Sœur Juana ?
De la Cruz.
De la Cruz, bravo.
Voilà, et c'est Catherine.
Inès de la Cruz. Inès de la Cruz.
Ah, c'est dur, Imam Abdelali, votre truc.
Ah, mais écoute, Philippe, qu'est-ce que tu veux ? On ne va pas à chaque fois donner des... j'aurais pu vous faire, je ne sais pas moi...
Bon, troisième question plutôt.
Aïcha, Khadija, et puis Léa ou bien Mère Teresa.
Et Sarah.
Ou Elisabeth. Non, il faut être plus... On est dans la pertinence.
Alors, troisième question, Imam Abdelali.
Donc, un point pour
Catherine.
Catherine. Militante des droits des femmes et philanthrope réputée d'avant-garde, cette Russe-là était convaincue qu'il valait mieux éduquer et former les pauvres plutôt que de distribuer des allocations en espèces. En 1860, elle cofonda une société pour venir en aide aux pauvres qui proposait non seulement des logements à bon marché mais aussi un travail décent pour les femmes. Comment s'appelle cette femme russe qui a milité pour les droits de la femme en l'an 1860 ?
Et on joue pas avec son téléphone. Hein. Kouchmouka.
Elle s'appelle Anna Filosofova. Filosofova. C'est à aller trouver, philosophe.
Ça commence à devenir compliqué.
Voilà, Filosofova.
Bon, alors Anna Filosofova. Bon.
Dame qui travaille dans les quartiers.
Bon, elle est connue cette dame. Bon, allez, quatrième question. La suffragette célèbre de Nouvelle-Zélande. Oula, la Nouvelle-Zélande. Soutenue par d'autres militantes, présenta au Parlement une pétition monstre de plus de 32 000 signatures réclamant le droit de vote des femmes. Une action déterminante qui conduisit la Nouvelle-Zélande à devenir le premier pays souverain à accorder le droit de vote aux femmes en l'an 1893.
Un quiz c'est international.
C'est en 1893.
Et Elisabeth, quelque chose, non ?
Non.
Tu vois, on n'a pas parlé des valeurs féminines. Là, je parlerai tout de suite d'humilité. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Mais quand vous allez entendre son nom, vous allez dire ah oui. Ah, et on a déjà entendu ça.
Yulington.
Elle s'appelle Kate Shepard.
Ah oui.
Shepard.
Ah oui, vous avez raison, on savait. Allez, une dernière question, c'est pour la route,
c'est
vraiment.
Je vous donne des noms. Si vous dites des trucs que vous connaissez déjà, c'est pas.
On va s'enrichir là. Et c'est des parcours intéressants. Kate Shepard.
Bah oui. En 1893, c'est impressionnant, alors qu'en France, il a fallu attendre 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, pour avoir le droit de vote aux femmes. C'est incroyable. Il y a presque. Attendez, c'est quand même 50 ans plus tard, hein, plus que ça même.
Alors, la dernière question, Imam Abdelali.
Une éditrice, écrivaine et militante politique japonaise cofonda en 1911 le premier magazine littéraire entièrement féminin de son pays, le Japon.
Il est toujours en forme comme ça.
Ah, oui, c'est ça, rigole.
Là, il est calme aujourd'hui.
Ce journal s'appelle Seito. Elle remit en cause à travers cette publication le rôle traditionnel des femmes à la maison. Dans le numéro de lancement du magazine, elle appelait les femmes à révéler le génie caché en chacune d'entre nous.
Ah, ça, j'adhère à ça, mais par contre, je ne sais pas comment elles s'appellent.
Mais ta vie, c'est beau quand même. Il y en a qui ont travaillé. Mais il faut les sortir de l'ombre, ces femmes.
Oui, hein,
et si on ne parle pas d'elles, comment voulez-vous qu'on en parle ?
Alors, comment elles s'appellent ?
Elles s'appellent Raisho Aratsuka. Iratsuka. Iratsuka. Ah, oui. Iratsuka. C'est connu, Iratsuka. Je pense que Iratsuka, on a déjà entendu.
Mais c'est vrai que la connaissance est très importante.
Raisho ou Raiko, pour nous tous, Aritsuka. Aritsuka. Iratsuka.
Donc c'est Catherine qui a gagné.
Je pense qu'on a le...
Bon, c'est Catherine avec 1-0-0-0 voilà, qui gagne.
C'est la première fois que je gagne à ce quiz. Je suis très fière.
Ouais. Bah, c'est bien.
Bravo.
Voilà. Non, mais c'était bien. Je pense que c'est enrichissant.
Non, c'est très bien enrichissant. Hein. Et
C'est l'imam chef qui disait que si tu as raison, tu m'enrichis. Mais si j'ai tort, si c'est moi qui ai raison, c'est toi qui t'enrichis.
Bon, il a bien bossé, l'imam. Moi, je suis fier de vous, Imam Abdelali.
Merci, Philippe.
C'est vraiment une muse passionnante.
Mais là, franchement, j'ai voulu, cette journée mondiale de la femme, sortir de l'ombre ces femmes qui ont fait beaucoup de choses dans leur temps.
La journée mondiale des femmes. Pourquoi il n'y a pas...
Parce avant, c'était de la femme, et c'est pour ça qu'on l'a donné en anglais.
Des femmes, parce qu'il n'y a pas une... Ça présuppose qu'il y a un modèle de
femme. Non, non, non. La femme, c'est le sexe féminin.
Dans l'émission est finie, là.
Voilà. Les femmes, d'accord.
Mais moi, je voulais Karima, quand même dire que femmes. C'était bien d'avoir des hommes dans cette émission sur les femmes.
Oui,
c'est important.
Merci à tous d'avoir été avec nous. Dans un instant, émission spéciale à l'occasion des élections municipales. Vous allez retrouver Nasser Kétan, Emmanuel Mariani et dont l'invité exceptionnel est Juliette Méadel qui se présente aujourd'hui à Montrouge. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Speak Uni. Merci à vous toutes d'avoir été avec nous en direct ce matin. Imam Abdelali, à très bientôt.
Au plaisir.
Et bon week-end sur BRFM.
Merci.
Retrouvez Speak Uni tous les samedis de 10h à 11h et en podcast sur BRFM et l'appli BRFM.